Vous écoutez un balado de la Fabrique culturelle de Télé-Québec.
Il y avait certainement un tabou au début des années 2010 pour la scène musicale au Québec par rapport au rap. C'était comme le genre musical dont faut pas trop parler. Ça existe à moitié, ils font leurs affaires. Puis, de nous, à notre façon, aller jouer dans cette transgression du tabou, il y a des gens qui étaient fâchés de ça, qui nous traitaient de sell-out, etc. C'est pas du vrai rap, gna gna gna. Puis il y a d'autres personnes qui trouvaient ça génial, qui nous remerciaient de tout cœur d'avoir amené la musique à des places où elle n'allait pas. Puis, je pense qu'avec le temps, c'est quelque chose de puissant pour nous. Là. C'est pas prémédité, mais je remarque qu'avec les années, c'est un pattern récurrent pour la claire. C'est-à-dire qu'on voit comment les choses évoluent. Il y a des tabous qui s'imposent à plusieurs endroits, puis entre nous, ça devient irrésistible d'en rigoler, tu sais.
Je m'appelle Fabiola Nirva-Aladin. Je suis comédienne, enseignante, chanteuse, mais surtout mélomane. Je vous présente une série balado qui nous plonge dans l'histoire d'albums marquants de la musique québécoise. Dans cet épisode, on s'intéresse à un disque qui a transformé la perception du hip-hop au Québec, 4,99, dans la claire ensemble.
Ici Ken Lo, a.k.a. Akena Loamba Okoko. J'aime ça faire des beats, j'aime rapper, toujours en équipe.
Moi, je m'appelle Eman, je suis un artiste de la ville de Québec.
Moi, c'est Ogden Ridjanovic, a.k.a. Robert Nelson, président du Bas-Canada.
Mon nom, c'est Maybe, dis-moi, c'est quoi le tien? On dirait que j'ai vieilli, mais j'ai pas un poil de moins. Certains pensent de nous qu'on est une belle gang de sang de saint. Shout-out à Axe et Maybe, les deux s'appellent Antonin. Y'a des muffins le matin.
Un membre central de la création 499, c'est Olivier Guénette Normandin, alias Maybe Watson. Des membres fondateurs de la claire.
On s'est tous entre influencés, mais je pense que lui nous a beaucoup influencés dans la façon d'écrire de façon moins linéaire, mettons. Quand j'observe un peu ce qu'on faisait tous avant à la claire ensemble, je pense qu'on écrivait tous de façon un peu plus linéaire, puis lui qui le faisait le moins avant à la claire, qui écrivait déjà de façon non linéaire, c'était Maybe Watts.
Vous l'entendez, à la claire ensemble, c'est une histoire de gang, de famille. C'est une constellation d'artistes, majoritairement de Québec, qui mènent plusieurs projets musicaux comme Mauvaise Herbe, Acrophone et Les Deux Tomes. Tout ce beau monde-là gravite autour du 1036, le studio du réalisateur et auteur-compositeur-interprète Claude Bégin.
Claude puis moi, ça fait genre au-dessus de 30 ans qu'on se connaît. Fait que le 1036, c'est genre, ça a parti d'un appart avec son père puis sa sœur. Puis son père, c'est Jet. Puis là, c'était rendu Claude puis sa sœur qui était là.
Mais tu sais, basically, c'est juste ici, c'est sur la rue Cartier. Puis c'était comme au troisième étage d'un édifice. Le premier étage, il y avait un commerce. Puis là, les quatre appartements dans ce bloc-là, il y en avait juste un des trois qui n'était pas occupé par cette gang
les
de
amis,
chums.
Ouais.
Mais un de ces appartes-là spécifiquement, qui était à l'époque l'appart où Claude vivait avec sa famille. Claude, à un moment donné, a déménagé dans l'appart juste à côté, mais il a gardé son studio dans le 1036. Puis c'est même pas une joke, il avait un vibe un peu maison des jeunes, maison des moins jeunes, on pourrait dire. Maison des moins jeunes. Maison des jeunes pour adultes, là, au sens où il y a du monde qui débarque là.
Ah, ça repart. À 4 heures du matin, ça repart.
T'appelles pas pour dire, hey, je me pointe. Tu débarques au 1036. Là, c'est fondamentalement ça l'idée. Il y a du monde qui chill dans la cuisine. La cuisine, c'est comme le lieu de chilling social. Puis généralement du monde en studio en train de faire de la musique. Claude était beaucoup là de jour. Puis là, quand Claude, il travaillait plus de jour, ben là, t'as comme mille et une personnes qui... Tu sais, moi, quand j'habitais là, quand c'était le soir, moi, j'allais dans le studio, puis c'est comme ça que j'ai fait, mettons, mon premier petit projet solo, Les Filles du Rouet à l'époque, tu sais. Mais l'idée, c'est que si t'arrives là en début d'après-midi, c'est spick and span. Puis là, si tu débarques là entre 10h du soir et 4h du matin, ça brasse, il y a du monde. Il y a du monde qui font de la musique, ça chill. Puis Claude était un véritable mécène sans le savoir à cette époque-là. Parce que genre, tu sais, lui, dans le fond, il avait financé lui-même son studio, puis c'était son studio, mais comme en dehors des moments où lui l'utilisait, il y avait une bonne vingtaine d'artistes là, en tout, là, probablement, là, qui avait la permission de Claude. Tu sais, Claude,
pas, tu payais pas. Là.
Tu payais pas, là. C'était juste Claude. C'était grosso modo, ouais, ben, si je suis pas là en train de faire de la musique, tu peux utiliser mon studio.
C'est exactement comme ça que plusieurs collaborations naissent dans le 1036. À cette époque-là, Claude et Eman travaillent sur le premier EP de leur ami, Karim Ouellette. Mash, du groupe Les Deux Tomes, produit et enregistre des beats avec Maybe Watson, Eman et Kenlo. En fait, si on avait à identifier le fondateur de la Claire Ensemble, ce serait Mash. Eman, de son côté, collabore avec un rappeur de quelques années son cadet, Ogden Ridjanovic.
Parce que moi, genre, de nuit, mettons, Claude, lui, travaillait de jour, puis là, il me disait, ben, tu as la clé, whatever, si tu veux venir le soir, tu sais. Lui, il finissait pour le souper, mettons. Moi, j'arrivais, je faisais le deuxième shift. Fait que là, à un moment donné, je pense que c'était un dimanche, il travaillait pas, puis on a passé une journée ensemble, on a enregistré l'album à Ogden. On s'est fait un petit barbecue après, puis là, je pense que tu m'as proposé, ou je sais pas trop, t'as dit, on fait-tu un track ensemble? Là, j'étais comme... Ouais, mais j'ai pas de beat. Là, j'ai dit, attends, j'étais allé prendre un breakbeat, je l'ai loupé, j'ai dit, ça va être ça. Puis ça, c'est la chanson pile comprise, en fait.
Yeah! Descends l'ouest, puis jusqu'au balcon, t'attends Pierrette. Si t'as envie d'arrêter, faut pas que t'arrêtes. Continuez pendant qu'on avance en mode turbo dans le vide. Montre-moi ce qui te reste de bass, puis d'acide dans pile. Wadadadang! Salutations, mes demoiselles et mesdames, je vous souhaite. Bienvenue dans la cabane, j'avais quelques petites choses à vous dire avant de commencer. Vous n'aurez plus jamais besoin de changer vos batteries si la révolution se passe, comme on l'avait dit l'autre après-midi sur le Bank Park. Les piles comprises vont annuler la dépense, soit de donner d'énergie à ce qu'il devrait en avoir. Pour moi, c'est interdit pour un artiste.
Quand on était au studio de Claude en train de faire le tracklist final de 4,99, le gars était en train de finir Brisasseur de Fizzoul, il y avait Jean-Yves Pidox qui était là, Mash opérait le studio, puis justement, à un moment donné, comme il dit, il manque un verse, tu sais, puis là, il se tourne vers moi, il dit, hey, t'as-tu un verse qui traîne random, puis là, j'en avais un, puis fait que moi, j'avais écrit ça par rapport, pas pour Brisasseur de Fizzoul. Puis là, il se tourne vers moi, puis là, il dit, on devrait mettre pile comprise sur l'album de 4,99. Puis, tu sais, moi, initialement, j'étais comme, évidemment, pas con, je trouvais ça génial. J'avais comme une deuxième tune sur l'album d'À la Claire. Parce que moi, à ce moment-là, je me voyais pas comme dans À la Claire nécessairement. C'est juste comme j'étais sur une tune de ce projet-là.
Il y avait l'idée de c'était même pas un groupe. Même
non, c'était pas
ça, on
un
l'a
groupe.
Pas encore mentionné depuis le début, mais.
C'est que c'était pas un groupe.
C'était visuel. Le 4,99, à la base, était visualisé comme un mixtape, une compilation.
Bienvenue sur ce magnifique groupe-là, signé À la Claire ensemble. Puis même si t'es en pleine santé, fais le move du gars qui boit une jambe. Parce que le but, c'est d'avoir réchauffé chaque muscle avant la fin de la toune. Mais si t'as l'impression qu'on bouge pas, c'est parce qu'on court à la même vitesse que la terre tourne. Hey yo, je suis super ultra méga fraîche comme un cut de 70. De quoi d'assez lourd pour te casser, tu sens déjà ton corps qui plie. Hey yo, mon nom c'est Kenlo, je mesure 5 pieds 9 et je pèse 160 livres. Mais je suis léger comme la Watt quand je drop de quoi en finesse sur le beat.
Juste quand les offres de show sont arrivées, que tu sais, il y avait à peu près 11-12 personnes qui ont contribué à 4,99. Quand les offres de show sont arrivées, on s'est rendu compte qu'on pouvait pas faire une tournée à 12 personnes. T'sais, littéralement, c'est pas mal ça, là, tu sais.
Oh, fraîchement arrivé dans le spot. J'ai réalisé que le monde ici danse pas. Moi, je change ça. Poussez-vous que je drop mon...
À la Claire Ensemble devient un groupe de façon plus officielle avec un premier spectacle. Ça se passe sur la scène secondaire de la mythique Saint-Jean-Baptiste, sur les plaines, à Québec.
Puis là, pour cette date-là, on s'est dit que ça serait nice d'avoir l'album physique, qu'on puisse distribuer l'album, vendre l'album. Fait qu'on se donne comme date butoir d'avoir une copie physique de 4,99 pour la Saint-Jean-Baptiste 2010. Fait que là, c'est pour ça qu'on se rejoint au studio, on fait le track listing, on imprime 500 copies, c'est la copie grise avec les casiers d'école. Puis on appelle ça 4,99. Puis on colle l'après-midi avant le show. On est tous dans le studio, puis on est en train de coller une scène noire sur chaque album pendant la journée pour ensuite les vendre. Fait que l'idée, c'était, l'album s'appelle 4,99. On vend le mixtape dans la rue. Ça coûte 4,99. T'as ta scène de change à l'arrière.
Si tu donnes 5.
Fait que là, la première journée qu'on se mettait à vendre des albums, mais c'est aussi la première journée qu'on a fait le show. Fait que là, on a fait ce show-là. Là, on a fait un autre show en juillet à la baie de Beauport, ici à Québec, je me souviens de ça. Puis après ça, on continue à vendre. T'sais, on avait tout là, dans nos sacs à dos, plein de copies de l'album. Ouais. À un moment donné, on a vendu les 500 premiers, puis là, on a reprint un 500. Autre 500 mauve.
Ouais, 500.
Puis là, on les a tous vendus aussi. Puis là, on a reprint une version verte. On l'a tout vendu aussi. Puis là, on est arrivé. Puis là,
c'était 1000.
Fait que en tout, on a comme vendu 2000 copies de l'album.
Après ça, 4,99 devient disponible en téléchargement gratuit ou moyennant une contribution volontaire sur la plateforme Bandcamp. C'est une stratégie vraiment audacieuse pour l'époque qui fait jaser autant dans le milieu de la musique que dans les médias. L'attention reçue permet de multiplier les spectacles autour de Québec et de Montréal et en même temps, la formation du groupe se précise. Mash, le producteur et DJ dans les premiers shows du groupe, déménage à Toronto et c'est V Looper qui devient le DJ officiel dans la Claire Ensemble.
Puis là, en 2010, c'est ça, en septembre 2010, on le sort sur Bandcamp. Puis là, évidemment, ça a un peu démocratisé l'offre là, par rapport à... Puis là, le word of mouth a opéré parce que c'était facile de le downloader puis de l'écouter. Là, je me souviens, les rats, comme on allait à Shiz, on allait à CISM, on se faisait inviter pour faire des mini-perfos, jaser de l'album, etc. On continue à faire des petits shows par-ci, par-là, mais là, ça devenait de plus en... On dirait que là, il y a comme l'effet boule de neige de... L'album existe sur Internet, il est gratuit, n'importe qui peut l'écouter. On commence à avoir des offres de shows, puis on commence à avoir une mini-forme prototype organisationnelle. Là, c'est les mêmes personnes qui viennent. On est tout le temps les mêmes six au début qui viennent faire les shows, etc. Puis là, dans la première moitié de 2011, Mash, il quitte, il est plus là. V Looper intègre ça, il vient les fois d'après faire des shows avec nous. Puis là, out of nowhere, il commence à avoir beaucoup d'offres pour l'été 2011.
Comme Ogden le dit, l'intérêt pour la musique de la Claire est assez exponentiel dans cette période-là. Il semble y avoir des nouveaux publics en dehors des circuits traditionnels du hip-hop.
Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas nécessairement des gros amateurs de rap qui étaient down avec la proposition parce qu'ils ne sentaient pas qu'ils étaient comme dans une écoute intrusive là, sur quelque chose qui ne les concerne pas. Ça, j'ai quand même le feeling que ça a joué un rôle aussi. T'sais. On a amené la première fois, le whole brainstorm du Bas-Canada, c'est apparu comme ça. Là, c'était genre les Franco 2011. Après cette première année de shows et d'articles online sur 4,99, il y avait un pattern là, qui existait auprès de certains commentateurs culturels qui... parce qu'à cette époque-là, si tu allais sur notre Bandcamp, sur la page 4,99, on décrivait le projet comme un projet de post-Rigodon. Là, il y avait comme plusieurs commentateurs culturels, je me souviens pas qui, là, mais il y en avait plus qu'un, définitivement. Il y avait comme ça revenait l'espèce de notion, comme si on nous mettait dans une espèce de catégorie de groupe nationaliste à la loco-locasse, etc. Puis nous, on avait un inconfort avec ça parce qu'on avait trop pas l'impression que c'était ça qu'on faisait. T'sais. Parce que dans les entrevues, certaines entrevues viraient quasiment pour virer politique. C'était comme, fait que là, vous êtes un groupe souverainiste, tout comme ça. Puis tu sais, c'était comme des questions qui nous semblaient incohérentes par rapport à la proposition qu'on faisait. Puis on était tannés de se sentir pogné à donner une réponse sérieuse, genre comme en mode devoir parler de politique à un moment où on trouve que ça faisait aucun rapport. Fait que là, on s'est dit, hey, les entrevues sont tellement plates, faut qu'on commence à être créatif dans les entrevues, faut qu'on foute la merde dans les entrevues. Puis là, moi, j'avais genre vu un documentaire sur l'histoire du Québec. Puis là, à un moment donné, ça parlait du Bas-Canada, puis ça parlait de Robert Nelson. Puis là, moi, j'avais vraiment trippé sur la découverte de ce personnage-là. J'en avais parlé au gars. Là, moi, vu que je m'occupais du Gmail, vu que je m'occupais de deux, trois affaires comme plus logistique, les gars avaient commencé à m'appeler Robert Nelson, président du Bas-Canada. Fait que là, on avait décidé pour notre show au Franco en 2011. Puis là, c'était 4,99 là, qu'on performait à ce show-là. On avait décidé d'arriver... avec tous des T-shirts écrits « I love Bas-Canada », mais le « love », au lieu que ce soit un cœur, c'était la feuille du Bas-Canada à l'envers. Puis on s'était fait faire un drapeau du Bas-Canada par mon amie Virginie, qui nous avait cousu d'un côté, c'était le logo à la clap, de l'autre côté, c'était le drapeau du Bas-Canada. C'est d'ailleurs le même drapeau qu'on a à ce jour, qu'on traîne dans nos spectacles, qui a survécu à toutes les péripéties. Shout-out Virginie. On arrive au Franco en 2011... puis aucune mention du Bas-Canada sur 4,99, là, mais littéralement aucune. Puis là, on arrive à ce show-là, puis il y a comme toute une mise en scène à propos du Bas-Canada. Tu sais, on fait chanter l'hymne national bas-canadien au monde, on a le drapeau, on a nos gilets à l'œuvre Bas-Canada, puis le monde, il comprenait rien du tout, ça avait aucun rapport. Ça semblait comme un mauvais brainstorm là, tu sais, qui avait juste pris un drôle de virage là, mais nous on l'a juste pas lâché, puis assez rapidement, c'est comme la feuille du Bas-Canada est devenue notre logo pas mal plus que le juste à la claire, tu sais.
J'ai de la viande de cheval, des raviolis et puis de la sauce tomate pour faire un souper aux chandelles avec peau d'hommage, du brie triple crème. Je t'ai écrit un refrain, c'est pas Dupuis qui le sait. J'ai de la viande de cheval, des raviolis et puis de la sauce tomate pour faire un souper aux chandelles avec peau d'hommage, du brie triple crème. Je t'ai écrit un refrain, c'est pas Dupuis qui le sait.
Post-Rigodon, ben c'était comme une façon de dire, ben on le côté post, ben tu sais, c'est ça, c'est comme les musiques contemporaines qui nous ont influencés, donc évidemment le rap américain, tu sais. Puis Rigodon, ben c'était le fait de dire, ben on est quand même en train d'utiliser un langage qui provient du Québec avec des expressions qui proviennent du Québec, puis qu'on le veuille ou non, ça traîne avec soi un bagage culturel qui est unique, tu sais, qui est différent. Fait que c'est comme la rencontre de la tradition orale bas-canadienne et des musiques contemporaines américaines, dont évidemment le plus centralement le rap américain. Fait que c'était ça le post-Rigodon.
Les membres de la Claire Ensemble sont pas mal plus influencés par le hip-hop américain que par le son et les sujets du rap français. Et ça se limite pas juste à ça. L'esprit du rap américain est très présent dans la démarche et les spectacles de la Claire.
Au final, notre objectif, c'était un peu d'incarner le block party ambulant du spectacle d'amusement. Là, l'idée que tu sais, c'est initial dans les débuts du rap aux États-Unis, cette notion-là qu'il y a clairement une forme de mouvement social, mais il y a aussi une notion de c'est un événement familial pour le quartier. On s'amuse, on danse, c'est quand même plus tard là, qu'il a commencé à avoir un vibe où le rap fallait que ça soit extrêmement sérieux, puis là, c'était pas pour la famille, puis là, c'était comme... Tu sais, là, tu tombes déjà peut-être plus dans des vibes des années 90, mais là, il y a déjà...
Mais le côté que nous... Je pense que le côté de aussi, mettons, là, le rap, ça vient de l'improvisation, là. Puis j'ai l'impression que le côté d'avoir Ken Lo, Maybe Watson, puis Ogden, qui sont comme vraiment des forces d'impro, genre... T'sais, on le fait encore aujourd'hui, là, je veux dire, Ken Lo, il freestyle tout le temps dans les shows. Il y a tout plein de parties. De moment, on dit à Ogden, fais un sketch. Puis là, il dit, ouais, mais quoi? Fais un sketch, man. Pendant genre 2 minutes, tu vas parler de quelque chose. Puis là, des fois, on dit, les contraintes, ben là, t'as plus le droit. Ça fait genre 3-4 shows que tu parles de telle affaire, là, faut que t'en inventes un nouveau. T'sais. Puis je pense que l'aspect improvisation dans le show fait que nous, on peut s'adapter au public qu'il y a devant nous. Donc, des familles, décider ça, du monde complètement sur le party à Rennes à 2h du matin dans un club où tout ça, on adapte le show. T'sais, au début, on disait, c'était drôle, là, au début, on disait, ben là, on fait-tu le show boy band ou on fait le show de punk? Là, on était comme, ah, on niaisait avec
show
ça.
Show pour enfants, dernièrement.
Oui, dernièrement, on a fait un show pour enfants, tu sais, à midi. C'était très hot. On peut s'adapter à ça. Je pense que ça a fait vraiment notre force en tant que groupe.
L'esprit joueur des membres du groupe et leur capacité à s'adapter, se remettre en question et à pas trop se prendre au sérieux leur a permis de changer la perception que le grand public avait du hip-hop au Québec. Ça a pavé la voie pour des artistes comme Fouki, Dead Obies et Loud.
Notre projet, puis comment nous, par une combinaison de chances, de travail, etc., comment on a navigué dans la scène musicale au Québec, on a influencé la perception des festivals, des promoteurs, des institutions culturelles dans leur vision du rap. C'est-à-dire que tout à coup, ça devenait cohérent pour un festival qui, à la base, offre rien de hip-hop dans sa programmation, d'avoir un headliner de rap tel qu'à la Claire Ensemble. T'sais. Fait que là, le festival à côté qui voit que ça a bien été, qui s'est un peu inspiré par la même chose, qui fait quelque chose de similaire. Puis là, d'année en année, on joue à chaque année au Franco, on joue au festival d'été, on a fait tout, je pense qu'on a fait tous les festivals que tu peux faire au Québec dans ces années-là. T'sais. Puis là, en plus, on jouait dans les salles de spectacle. Là, c'était plus juste jouer dans un bar où il y avait souvent des shows d'hip-hop. Là, c'est vraiment une maison de la culture en région qui te book pour aller faire un show dans une place.
Souvent, ça arrivait très, très souvent des endroits où on a joué que c'était la première fois. qui bookait du hip-hop, puis depuis, c'est rendu des salles qui bookent, tu sais, comme
ça les fait
hip-hop régulièrement.
Dans les soundchecks, le monde nous le disait, le disait, d'habitude, c'est rare qu'on book du rap, là, on est comme content de vous avoir.
Mais aussi, on sentait qu'il était pas sûr.
Pas sûr, il y a un petit côté, là, comme quelqu'un qui n'a pas de malice, là, mais qui dit un commentaire, tu ressens le préjugé dans la façon dont il t'explique qu'ils sont en train de prendre une chance avec le projet, là, etc. Mais je pense que c'est plus ça, c'est qu'il y a une trêle qui s'est tapée par rapport à la possibilité d'exporter le rap en dehors d'un milieu uniquement autosuffisant du rap, parce qu'il y avait déjà une vraie scène du rap, mais qui était en quelque sorte un peu autosuffisante, là.
Quand tu parles ton rêve, on dirait que tu marches une graine. Cheap shot, mais ta petite toile, t'es soft, t'es sain. Fucking lourd, je te laisse tomber, ça vaut pas la peine.
Respect. 4,99 a été le début d'une riche discographie pour À la Claire Ensemble, d'une tonne de collaborations, de projets parallèles et de nombreuses récompenses à la disque, notamment pour les albums Les Frères Cueilleurs et Le Sens des Paroles. Mais ça a surtout été un moment de transformation pour tous les membres du groupe, dont Ogden, Kenlo et Eman.
Moi, avant ce moment-là, la musique, même si ça avait joué un gros rôle dans ma vie, c'était quelque chose de privé, c'était quelque chose que je faisais dans mon temps libre. J'avais comme eu le rêve de faire de la musique, de potentiellement un jour même la publier, la partager, mais c'était pas encore arrivé, tu sais. Puis là, ma vie aurait été drastiquement différente là, depuis 2010 là, si ça avait pas été de ce projet-là.
C'est inattendu pour moi quand je regarde comment les choses étaient initialement parties un peu. T'sais, au niveau financier, là, ressources puis tout, là, j'ai pas le choix de considérer ça aussi là, au-delà de la musique, là, de dire que ça a été un projet qui a enligné vers le fait que ça devient comme un métier. Là, c'est ce que je veux dire, c'est ça que j'aurais à dire là-dessus.
Rencontrer ces gens-là puis en création, ça m'a comme fait « OK, wow, il y a vraiment une autre manière de le faire qui nous... Il y a une manière de le faire qui nous ressemble plus. » On avait trouvé le code secret, genre. C'est comme si je le sentais que pendant qu'on le faisait, puis pendant qu'on commençait les premières choses, j'étais comme, ça y est.
Il y a pas juste Céline est une série balado de la Fabrique culturelle de Télé-Québec, réalisée en partenariat avec Transistor Média et animée par moi, Fabiola Nirva Aladin. Réalisation, Julien Morissette. Musique originale, montage et mixage, Jean-Sébastien Côté. Chargé de production, Florence Crête-Lafrenière. Recherche, Delphine Lamotte et Gabriel Toin. Gestion contractuelle, Julie Pelletier et Marie Gagnon. Graphisme, Étienne Duquerre. Eddy Mestre, Elisabeth Laure. Chef de contenu, Ariane Graton-Jacob. Dans cette deuxième saison, on vous propose 5 autres épisodes sur les albums marquants de la musique québécoise avec Mitsou, Hubert Lenoir, Alexandra Strelitzky, Marat Tremblay et les Vulgaires Machins. La première saison avec Richard Desjardins, Lassa Desella, Boule Noire, Mazayan, Carquois et Fred Fortin est également disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion.
Écoutez tous nos balados sur balado.téléquébec.tv.